Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre émission avec le journal suivi de vos commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonjour à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. Le président indonésien a confirmé l'État dans des conditions sûres. Le ministre de la Défense du Laos et l'Indonésie discutent de la coopération dans l'éducation militaire. Les Libanais se sentent à l'aise parce qu'il y a des soldats indonésiens qui sont les membres de la force intérimaire de la FINUL. Biopharma est le centre d'excellence dans le domaine des vaccins. L'Agence centrale des statistiques ou BPS espère l'élection de Donald Trump ne diminue pas les exportations indonésiennes vers les États-Unis. L'économie de l'ASEAN est crue d'être la croissance stable. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a fait la visite militaire. Le chef de l'État a visité le siège d'effort spécial au PASKAS de l'armée aérienne à Bandung, Jawa West, mardi. Devant 1512 soldats, le président Joko Widodo a dit que sa présence voulait assurer la préparation des troupes pour maintenir la République unitaire d'Indonésie. Le président a nié sa visite militaire à cause des conditions précaires. Il confirme sa visite militaire effectuée au cours des derniers jours pour rassurer la communauté parce que toutes les forces des deux militaires et la police dans une position prête pour sécuriser le pays et la nation. Le président a de nouveau souligné que l'Indonésie était dans un état sûr. Le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, M. Ria Mizar Triakudu, a rencontré son homologue de la République démocratique du Laos, Chan Samon Chanyalat, au ministère de la Défense du Laos, le mardi. Cette réunion est le moyen d'échange de points de vue sur la possibilité d'une coopération de défense entre les deux pays. Selon Ria Mizar Triakudu, l'Indonésie a offert la coopération de la défense du Laos afin de renforcer la confiance mutuelle et de la paix dans la région. Deux domaines qui sont offerts par l'Indonésie liés à l'industrie de la défense et l'éducation militaire, notamment l'invitation de l'éducation aux officiers du Laos, rejoint l'éducation pour les officiers et le commandement de l'armée. Selon lui, l'Indonésie et le Laos peuvent intensifier les possibilités de coopération de la défense. Cham Samon Chanyalat a déclaré qu'il était content de l'offre de coopération dans l'industrie de la défense et de l'éducation militaire. Dans le passé, de nombreux officiers de l'armée populaire du Laos qui ont étudié en Indonésie. Les Libanais se sentent à l'aise parce qu'il y a des soldats indonésiens qui sont membres de la force de maintien de la paix au Liban, ou la FINUL, en plus connu pour avoir la capacité territoriale de maintenir la paix au Liban, y compris CESO. Les forces indonésiennes peuvent également faire la prose au peuple libanais. Cela a été transmis par l'ambassadeur d'Indonésie au Liban, Ahmad Yosin Sumaidi, mardi à Jakarta. Selon lui, la capacité des forces indonésiennes à approcher les gens au Liban, parce que TNI est né du peuple et a une mission culturelle qui facilite les troupes indonésiennes entre diverses communautés dans le pays. Selon lui, le chef de FINUL apprécie les troupes indonésiennes qui deviennent le pilier de la force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban, connue pour leur discipline fidèle et à proximité de la communauté locale. En outre, l'état de la société au Liban est similaire avec celui de la société en Indonésie, étant hétérogène avec la diversité culturelle, l'ethnicité et la religion, mais ils peuvent garder l'unité. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. 13 vaccins produits par BioPharma a reçu la préqualification de l'Organisation mondiale de la santé et ont été exportés aux 133 pays. La réalisation brillante dans le domaine des vaccins a fait BioPharma et donné la responsabilité d'être un centre d'excellence dans le domaine des vaccins pour les pays islamiques. Le chef de bureau de la coopération internationale du ministère du secrétariat d'État, Rika Kiswardani, dans l'ouverture de l'atelier de la production de vaccins dans les pays islamiques, tenu à Bandung mardi, a déclaré que l'un de ses engagements en tant que centre d'excellence, BioPharma, a le rôle actif dans le partage des connaissances et des expériences liées à la production de vaccins aux pays islamiques. À travers de l'atelier tenu du 15 au 18 novembre, Rika espère l'indépendance des pays islamiques dans la production de vaccins augmente. L'Agence centrale des statistiques, ou BPS, a noté que le nombre de produits d'exportation de l'Indonésie vers les États-Unis en octobre 2016 avait pénétré de 12,89 milliards de dollars américains. Le chef du Bureau central des statistiques, M. Suharyanto, a déclaré mardi que ce nombre avait augmenté de 12,2% par rapport à la réalisation en septembre 2016. Il a déclaré que des produits d'exportation en provenance d'Indonésie qui ont réussi à pénétrer le marché américain sont entre autres les graisses et les huiles animales ou des légumes, les combustibles minéraux, des bijoux, les machines aéronefs, mécaniciens, les chaussures et aussi les vêtements. Il espère que l'élection de Donald Trump comme le numéro 1 en Amérique ne réduit pas le volume des produits d'exportation de l'Indonésie vers les États-Unis qui connaissent une augmentation. L'économie des pays de l'ASEAN est crue de rester une croissance stable malgré l'incertitude du commerce mondial, la stagnation du commerce mondial, la chute des prix des produits de base jusqu'à Brexit ne diminue pas l'optimisme. Le vice-ministre des Finances, Mardiasmo, dans le 11e séminaire sur les finances des investisseurs, a affirmé qu'il n'était pas cru que la stabilité économique de l'ASEAN se poursuivra dans l'avenir. Selon lui, l'ASEAN a prouvé qu'il est capable de maintenir la croissance économique au milieu du ralentissement économique mondial. L'intégration économique régionale est considérée comme l'une des clés du succès. Il a expliqué qu'en 2015, au milieu de la situation incertaine de l'économie mondiale, la performance économique de l'ASEAN est toujours en mesure de croître de 4,7% du produit intérieur brut qui atteint 2,5 trillions de dollars américains. En termes de l'échange, l'économie de l'ASEAN a également montré une augmentation. En 2007, lorsque la communauté économique de l'ASEAN est MAPI, la valeur commerciale est de 1,6 trillion de dollars américains, alors qu'en 2014, la valeur des échanges a augmenté à 2,5 milliards de dollars américains. En termes d'investissement, le flux de fonds versés directement aux pays de l'ASEAN a atteint 120 milliards de dollars américains en 2015. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Chaotique en République démocratique du Congo ». Le président Joseph Kabila mettra fin à son mandat le 19 décembre 2016. Mais Kabila a refusé de démissionner de son poste avant l'élection générale. Le problème est la mise en œuvre de l'élection est reportée en avril 2018 à cause du problème de renregistrement qui est lent. Ceci est la base du problème de l'opposition en République démocratique du Congo pour protester contre Kabila. Ils accusent Kabila de manipuler le processus d'inscription pour se maintenir au pouvoir dans un pays qui était autrefois connu sous le nom de Zaire. Kabila a dit qu'il continuerait d'occuper le poste jusqu'à la mise en œuvre des élections. Le chaos qui encourage le Conseil de sécurité des Nations Unies d'envoyer quelques diplomates des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont visité le Congo week-end dernier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies insiste le gouvernement Kabila pour créer une transition de pouvoir pacifique. L'équipe du Conseil de sécurité des Nations Unies essaie à résoudre l'impasse sur le mandat présidentiel Kabila et de prévenir les grands émeutes lorsque son mandat est terminé. En septembre 2016, 50 personnes sont mortes à cause de cette agitation. Les actions d'opposition à Kabila ont été en cours depuis qu'il a pris le pouvoir en République démocratique du Congo en 2001. L'opposition a accusé Kabila de vouloir modifier la loi afin d'être au pouvoir jusqu'à 3 périodes. Un sénateur du parti soutenant Kabila, Leonard Si Okitundu, essaie de convaincre que Kabila ne va pas faire quelque chose, ce qui est contraire à la loi. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont moins d'accord avec des efforts pour changer la loi, de sorte que Kabila n'a pas besoin de quitter le bureau jusqu'à la mise en œuvre des élections. Certains États membres de l'ONU inquiètent les troubles au Congo si la crise n'est pas terminée. Des millions de personnes dans le pays sont mortes à la suite du conflit entre 1998 et 2003. Nous ne nous attendons pas qu'il y ait la crise prolongée en République démocratique du Congo. Si l'Indonésie est louée comme l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, il est temps pour l'Indonésie de contribuer à la réalisation de l'un des problèmes chroniques en Afrique. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis d'antenne, nous continuons notre programme avec l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 9 novembre 1904. John Fleming a créé un tube à vide. John Ambrose Fleming est un expert en génie électrique et physicien britannique. Devient le professeur dans plusieurs universités, dont à savoir l'Université de Cambridge, l'Université de Nottingham et l'Université de College Londres. John Ambrose Fleming, né à Lancaster le 29 novembre 1849, est décédé à Sidmouth dans le Devon le 18 avril 1945. Il est passé à la postérité en tant qu'inventeur de Kinectron 1904. La première lampe à effet thermionique ou tube électronique qui est l'ancêtre des diodes à semi-conducteurs. En Grande-Bretagne, on lui attribue la règle de la main gauche ou pour les moteurs électriques. Notre information est sur la création de l'UNESCO le 16 novembre 1945. L'UNESCO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, est créée. La mission de cette branche de l'ONU est de promouvoir la paix dans le monde via la valorisation de l'éducation, des sciences exactes, sociales et humaines. de la culture, de la communication et de l'information. Sa première session se tient en fait près d'un an plus tard. Son siège est établi à Paris. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 16 novembre 2002, l'apparition du SRAS. Le SRAS, ou syndrome respiratoire aigu sévère, est une affection grave du système respiratoire qui s'apparente à la pneumonie. Le premier cas se déclare dans la région de Guangdong, la Chine. Environ 10% des patients du SRAS est mort. Après la Chine a fermé les nouvelles sur l'épidémie de SRAS, à la fois interne et international, le SRAS se propage rapidement, atteignant Hong Kong et au Vietnam à la fin de février 2003, puis à d'autres pays à travers le voyageur international. Le dernier cas de cette épidémie a eu lieu en juin 2003. Dans cette épidémie, 8000 nouveaux cas surviennent qui a tué 774 personnes. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant d'écouter le rappel de Twitter de la Côté, nous vous présentons maintenant la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
C'est Jamie Longten, voici donc la mise au point sur l'environnement et pour le titre, le gouvernement indonésien construira les infrastructures à 4 lacs à Bali en 2017. Le ministère des Travaux publics et du logement du peuple en 2017 sera alloué 600 milliards rupiah pour l'entretien des 4 lacs à Bali qui sont aussi une destination touristique. Ces 4 lacs sont les lacs de Batur, de Beratan, de Buyan et de Tambingan. C'est ce qu'a affirmé le chef du centre de la région de la rivière de Bali, Penida, Ketut Jayada, lorsqu'ils se sont rencontrés en mars du 16e conférence mondiale du lac tenue à Bali du 8 au 10 novembre, assistée par environ 30 pays dans le monde et des représentants de diverses provinces d'Indonésie, des universitaires, des chercheurs et des organisations non gouvernementales. Ketut Jayada a dit plus tôt, des années aux années, le travail se fait à 4 lacs sous la forme d'opérations et d'entretien, sous la forme de nettoyage de la jacinthe d'eau, élimination des sédiments. En 2016, on vient d'être effectué le dessine et on espère qu'en 2017, on peut commencer le développement physique sous la forme des digues, des pièces à sable et des canaux embusqués. La manutention est importante car elle est basée sur les résultats des études menées. Il y avait assez grand envasement qui a lieu dans les 4 lacs, à savoir environ 1600 pieds cubes par an de sédiments dans le lac. Ketut a donné l'exemple. Les résultats de l'identification dans le lac de Batur, d'abord, lac est causé de l'envasement, qu'il y a aussi l'exploitation de l'excavation C, mais cette fois, ces activités ont été arrêtées parce que le gouvernement local et la police ont interdit cette activité. Le deuxième problème, au bord du lac Batur, il y a beaucoup de règlements, donc, que tout évalue qu'il est important d'établir la ligne de démarcation avec les forces physiques qui marquent la frontière entre le lac avec la terre publique, si bien qu'il n'y a aucune annexion. Le troisième problème est les cases flottantes qui affectent grandement la qualité de l'eau, influençant ce lac. On a mentionné il y a quelques années, il y avait des poissons morts sporadiques qui montrent la mauvaise qualité de l'eau. Ketut Jayada a dit qu'il a eu un dialogue avec la communauté dans la région du lac Batur, comment établir le zonage, si bien que ce ne sont pas toutes les régions du lac de Batur, deviennent la zone d'exploitation de cases flottantes. Le lac Batur est l'un des 15 lacs prioritaires énoncés dans le plan national du développement à moyen terme. a dit l'une des raisons de choisir le lac qui est une propriété nationale en raison de son caractère unique, qui est le plus grand lac volcanique de Bali. En outre, la zone de Batur est également définie par l'UNESCO comme un géoparc. Série de talks, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir.
Le président indonésien Joko Widodo a fait la visite militaire. Le chef de l'État a visité le siège d'efforts spéciaux au Paskas de l'armée aérienne à Bandung, Java West, mardi. Devant 1512 soldats, le président Joko Widodo a dit que sa présence voulait assurer la préparation des troupes pour maintenir la République unitaire d'Indonésie. Le président a nié sa visite militaire à cause des conditions précaires. Il confirme sa visite militaire effectuée au cours des derniers jours pour rassurer la communauté parce que toutes les forces des deux militaires et la police dans une position prête pour sécuriser le pays et la nation. Le président a de nouveau souligné que l'Indonésie était dans un état sûr. Le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, M. Ria Mizar Triakudu, a rencontré son homologue de la République démocratique du Laos, Chan Samon Chanyalat, au ministère de la Défense du Laos le mardi. Cette réunion est le moyen d'échange de points de vue sur la possibilité d'une coopération de défense entre les deux pays. Selon Ria Mizar Triakudu, l'Indonésie a offert la coopération de la défense du Laos afin de renforcer la confiance mutuelle et de la paix dans la région. Deux domaines qui sont offerts par l'Indonésie liés à l'industrie de la défense et l'éducation militaire, notamment l'invitation de l'éducation aux officiers du Laos rejoint l'éducation pour les officiers et le commandement de l'armée. Selon lui, l'Indonésie et le Laos peuvent intensifier les possibilités de coopération de la défense. Cham Samon Chanyalat a déclaré qu'il était content de l'offre de coopération dans l'industrie de la défense et de l'éducation militaire. Dans le passé, de nombreux officiers de l'armée populaire du Laos qui ont étudié en Indonésie. Les Libanais se sentent à l'aise parce qu'il y a des soldats indonésiens qui sont membres de la force de maintien de la paix au Liban, ou la FINUL, en plus connu pour avoir la capacité territoriale de maintenir la paix au Liban, y compris CESO. Les forces indonésiennes peuvent également faire la prose au peuple libanais. Cela a été transmis par l'ambassadeur d'Indonésie au Liban, Ahmad Josin Sumaidi, mardi à Jakarta. Selon lui, la capacité des forces indonésiennes à approcher les gens au Liban parce que TNI est né du peuple et a une mission culturelle qui facilite les troupes indonésiennes entre diverses communautés dans le pays. Selon lui, le chef de FINUL a apprécie les troupes indonésiennes qui deviennent le pilier de la force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban, connue pour leur discipline fidèle et à proximité de la communauté locale. En outre, l'état de la société au Liban est similaire avec celui de la société en Indonésie, étant hétérogène avec la diversité culturelle, l'ethnicité et la religion, mais ils peuvent garder l'unité. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. 13 vaccins produits par BioPharma ont reçu la préqualification de l'Organisation mondiale de la santé et ont été exportés aux 133 pays. La réalisation brillante dans le domaine des vaccins a fait BioPharma et donné la responsabilité d'être un centre d'excellence dans le domaine des vaccins pour les pays islamiques. Le chef du bureau de la coopération internationale du ministère du secrétariat d'État, Rika Kiswardani, dans l'ouverture de l'atelier de la production de vaccins dans les pays islamiques, tenu à Bandung mardi, a déclaré que l'un de ses engagements en tant que centre d'excellence, BioPharma a le rôle actif dans le partage des connaissances et des expériences liés à la production de vaccins aux pays islamiques. À travers de l'atelier tenu du 15 au 18 novembre, Rika espère l'indépendance des pays islamiques dans la production de vaccins augmente. L'Agence centrale des statistiques, ou BPS, a noté que le nombre des produits d'exportation de l'Indonésie vers les États-Unis en octobre 2016 avait pénétré de 12,89 milliards de dollars américains. Le chef du Bureau central des statistiques, M. Suharyanto, a déclaré mardi que ce nombre avait augmenté de 12,12% par rapport à la réalisation en septembre 2016. Il a déclaré que des produits d'exportation en provenance d'Indonésie qui ont réussi à pénétrer le marché américain sont entre autres les graisses et les huiles animales ou des légumes, les combustibles minéraux, des bijoux, les machines aéronefs, mécaniciens, les chaussures et aussi les vêtements. Il espère que l'élection de Donald Trump comme le numéro 1 en Amérique, ne réduit pas le volume des produits d'exportation de l'Indonésie vers les États-Unis qui connaissent une augmentation. L'économie des pays de l'ASEAN est crue de rester une croissance stable malgré l'incertitude du commerce mondial, la stagnation du commerce mondial, la chute des prix des produits de base jusqu'à Brexit ne diminue pas l'optimisme. Le vice-ministre des Finances Mardiasmo, dans le 11e séminaire sur les finances des investisseurs, a affirmé qu'il n'était pas cru que la stabilité économique de l'ASEAN se poursuivra dans l'avenir. Selon lui, l'ASEAN a prouvé qu'il est capable de maintenir la croissance économique au milieu du ralentissement économique mondial. L'intégration économique régionale est considérée comme l'une des clés du succès. Il a expliqué qu'en 2015, au milieu de la situation incertaine de l'économie mondiale, la performance économique de l'ASEAN est toujours en mesure de croître de 4,7% du produit intérieur brut qui atteint 2,5 trillions de dollars américains. En termes de l'échange, l'économie de l'ASEAN a également montré une augmentation. En 2007, lorsque la communauté économique de l'ASEAN est MAPI, la valeur commerciale est de 1,6 trillion de dollars américains, alors qu'en 2014, la valeur des échanges a augmenté à 2,5 milliards de dollars américains. En termes d'investissement, le flux de fonds versés directement aux pays de l'ASEAN a atteint 120 milliards de dollars américains en 2015. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Rencontrons-nous dans une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous invitons à goûter la collation de Java S. Alors, restez toujours avec nous, la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez également écouter notre émission sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, manger des collations entre le temps de manger est important d'ajouter de l'énergie et aussi des nutriments. Les collations peuvent être sous forme de biscuits, le fruit ou le gâteau. L'Indonésie a plusieurs collations traditionnelles. L'un d'entre elles est le pat jagung, nourriture typique de Gresik Java East. Sa forme est comme le pot ou thymus, à savoir la nourriture qui est faite de manioc râpé mélangé avec la noix de coco râpée et de sucre brun, enveloppé dans des feuilles de bananier puis cuit à la vapeur. Si le pot jagung est fait de noix de coco râpée et de maïs, et enveloppé par de jeunes feuilles de maïs, mélangé de saveurs sucrées et savoureuses devient en un le pot jagung qui est plus savoureux. S'il est apprécié avec du thé ou du café chaud, l'enveloppement des feuilles de maïs rend la forme de cette collation unique. La collation sucrée est faite de graines de maïs qui ont été pilées ou râpées, puis mélangées avec la farine, le sucre, la vanille et la noix d'une jeune feuille de maïs jusqu'à ce que la pâte s'épuise, puis cuit à la vapeur environ 30 minutes. Après avoir été cuit, la peau de maïs comme enveloppement devient jaune et liquide. La feuille de maïs regarde toujours beau. Chers auditeurs, derrière sa délicatesse, le pot jagung ou le pot maïs contient beaucoup d'éléments nutritifs tels que les hydrates de carbone, la protéine, le calcium, le phosphore et la vitamine B1. Le pot jagung contient également des fibres qui sont utiles pour aider à maintenir une digestion saine, prévenir la constipation du risque de cancer colorectal. Tandis que le contenu de vitamine B, en particulier la thiamine et la niacine dedans, sert à maintenir la santé du système nerveux et à prévenir la malnutrition. La teneur calorique dedans est beaucoup, donc il peut fournir une énergie supplémentaire pour l'activité. Cela signifie que de temps en temps, profiter de petites collations traditionnelles pour le petit déjeuner n'entraîne pas d'effets négatifs. Le pot jagung est prêt à fournir plus d'énergie et de nutriments. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Le pot jagung. Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Apprendre l'indonésien. Pour ce soir, nous allons présenter le titre Menonton bersama. Je répète, Menonton bersama, ou en français, regarder des films ensemble. Comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et des expressions par rapport au thème aujourd'hui. Nonton film bersama. Nonton film bersama. En français, regarder un film ensemble. Bekerja. Bekerja. En français, travailler. Jam 4 sore. Jam 4 sore. En français, à 16h. Menemani. Menemani. En français, accompagner. Di Kebayoran. Di Kebayoran. En français, à Kebayoran. Baiklah. Baiklah, en français, d'accord. Mari kita pergi. Mari kita pergi. En français, allons-y. Chers amis, maintenant nous allons utiliser le vocabulaire et la phrase dans la conversation entre Anna A et Tuti B. Anna, hai Tuti, Apakah kamu sudah selesai bekerja? Hai Tuti, apakah kamu sudah selesai bekerja? En français, salut Tuti, as-tu déjà terminé le travail? Tuti, hai Anna, saya sudah selesai bekerja. Dan kamu? Hai Anna, saya sudah selesai bekerja. Dan kamu? En français, salut Anna, oui, j'avais terminé le travail. Et toi? Anna, saya sudah selesai bekerja dari jam 4 sore. Saya sudah selesai bekerja dari jam 4 sore. En français, j'avais fini à 16 heures. Tuti, kalau begitu, maukah kamu menemani saya menonton film? Kalau begitu, maukah kamu menemani saya menonton film? En français, eh bien, veux-tu m'accompagner pour regarder un film? Anna, boleh. Di mana kita akan menonton film? Boleh. Di mana kita akan menonton film? En français, d'accord. Où nous allons regarder un film? Tuti, kita menonton di daerah Kebayoran. Kita menonton di daerah Kebayoran. En français, nous regardons le film à Kebayoran. Anna, baiklah, mari kita pergi. Baiklah, mari kita pergi. En français, d'accord, allons-y. Chers amis, voilà cette édition du programme Apprendre l'Indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voic.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop, Reza Artamevia. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson de Reza intitulée Kepastian. Bonne écoute.
Masih setia untuk
Chers auditeurs, c'était la première chanson de Reza Artamevia intitulée Kepastian. Le succès d'un enfant parfois n'échappe pas du rôle de la mère qui comprend la psyché et le talent de l'enfant. Donc, une chanteuse pop indonésie qui était populaire dans les années 2000, Reza Artamevia a été guidée par la mère à développer ses talents depuis l'enfance jusqu'à ce qu'elle ait réussi à être la chanteuse top dans ce pays. Depuis l'enfance, Reza aimait à chanter. Sa mère demande toujours le petit Reza pour prendre le temps de chanter. Grâce à la direction de sa mère, Reza Artamevia a commencé à tester sa capacité au Festival des chanteurs d'enfance et Reza a gagné le deuxième champion. Lors de l'adolescence, Reza a rejoint le groupe musical Konu Dewa Dinov. Ahmad Dhani a invité Reza à essayer ses talents pour poursuivre une carrière solo. Dès le premier album produit par l'une des entreprises d'enregistrement à Jakarta, le nom Reza Artamevia était plus célèbre dans la musique pop indonésienne. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante de Reza intitulée Cintakan Membawamu. Bonne écoute.
Thank you.
Je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse pop indonésienne, Reza Artamevia. Reza Artamevia était plus populaire grâce à son album de collaboration avec le chanteur japonais Masuki Ueda avec son hit duo populaire intitulé Biarlah Menjadi Kenangan. En outre, la chanson de Reza, intitulée Keajaiban, a été devenue le hit single par Masuki Ueda au Japon après avoir été traduit en anglais. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Reza, intitulées Ketulusan et Dia. Bonne écoute et à bientôt!
Kehidupanku.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.